Chapitre 2. La première partie de notre voyage se passa bien. Le régiment s'avançait en longeant le pied des montagnes et suivant la direction du nord-est. Nous devions trouver notre général, notre colonel, le major, la plus grande partie des capitaines, après 2 mois de route à Merced ou ailleurs. Nous étions tous simples soldats avec 3 ou 4 sultans, les Naïbs et nos Vélils. On marchait de bon courage. Chaque jour, vers 2 heures du matin, on se mettait en route. On arrivait vers midi à un endroit quelconque où il y avait de l'eau et où on s'installait. La colonne s'avançait par petits groupes, chacun s'unissant à ses amis suivant sa convenance. Si l'on était fatigué, on s'arrêtait en route et on dormait son content, puis on rejoignait. Nous avions avec nous, suivant l'usage de tous les régiments, une grande file d'ânes portant nos bagages, les provisions de ceux qui en avaient, et nos fusils avec nos gibernes, car vous pouvez bien penser que personne n'était si sot que de s'embarrasser de ses armes pendant le chemin, à quoi bon ? Quelques officiers possédaient à eux seuls 10 ou 12 ânes, mais 2 soldats de notre compagnie en possédaient une 20aine qu'ils avaient achetés à Téhéran au moment du départ, et je m'étais associé à eux, car ils avaient eu là une bonne idée. Ces 20 ânes étaient chargés de riz et de beurre. Quand on arrivait au Manzil, c'est-à-dire à la station, nous dévaluons notre riz, notre beurre et même du tombéki et nous vendions un prix assez élevé. Mais on achetait et notre spéculation était fort heureuse car il fallait bien avoir recours à nous sans quoi on se fût trouvé dès les premiers jours dans une grande pénurie. Chacun sait que dans les grandes villes de l'Iran, celles précisément que traversent les routes, il y a fort peu de villages. Les paysans ne sont pas si fous que d'aller s'établir précisément sur le passage des soldats. Ils n'auraient ni trêve ni repos et finiraient par mourir de faim, sans compter les désagréments de toute espèce qui ne manqueraient pas de leur arriver. Ils se mettent donc au contraire loin des routes et de façon à ce qu'il ne soit pas toujours facile de parvenir jusqu'à eux. Mais les soldats non plus ne sont pas maladroits. En arrivant au Melzil, ceux d'entre nous qui connaissaient le pays nous renseignaient. Les moins fatigués de la marche se mettaient en quête. Il s'agissait quelquefois de faire encore 3 ou 4 lieues pour aller et autant pour revenir. Mais l'espoir d'augmenter nos provisions nous soutenait. Il fallait surprendre un village. Oh, ce n'était pas toujours facile. Ces paysans, les chiens maudits, ont tant de ruses. Nous avait-on aperçu de loin, tout le monde, hommes, femmes, enfants, s'enfuyait, emportant avec soi jusqu'au dernier atome de son bien. Alors nous trouvions les 4 murs de chaque maison et rien à emporter. Il fallait nous en revenir à l'étape avec notre surcroît de fatigue pour subir les mauvaises plaisanteries de nos camarades. Quand nous étions plus chanceux et que nous mettions la main sur les villageois, par Dieu, le bâton faisait rage, nous tapions comme des sourds, et nous revenions avec du blé, du riz, des moutons, des poules. Mais ça n'était pas souvent. Il nous arrivait aussi de rencontrer des gens cruels et hargneux, qui, plus nombreux que nous, nous recevaient à coups de fusil, et alors il fallait prendre la fuite, trop heureux de revenir sans quelque pire aventure. En ces occasions-là, qui ne possède pas de bonnes jambes n'est réellement qu'un pauvre diable. Il serait injuste de cacher que l'auguste gouvernement nous avait annoncé que nous serions fort bien nourris pendant toute la campagne. Mais personne n'y avait cru. Ce sont de ces choses que les augustes gouvernements disent tous, mais qu'il leur est impossible d'exécuter. Le général en chef ne va jamais s'amuser à dépenser pour faire bonne chère aux soldats son argent qu'il peut garder dans sa poche. La vérité est qu'au bout de 15 jours, n'ayant plus de riz à vendre, mes 2 camarades et moi fermâmes boutique. On n'eût pas trouvé deux malheureux pains dans tout le régiment, et nous commençâmes à manger les ânes. Je n'ai jamais vu de paysan plus féroce que celui du Khorassan. Ils habitent dans des villages fortifiés, et quand un pauvre soldat s'approche, ils ferment leurs portes, montent sur leurs murailles, et si l'on ne prend pas la précaution de s'éloigner en toute hâte, on reçoit une volée de balles qui ne vous manque pas. Puissent les pères et les grands-pères de ces horribles assassins brûler éternellement dans le plus profond de l'enfer et ne jamais trouver de soulagement. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Nous commençâmes donc à manger des ânes. Les malheureux, oh, j'ai oublié de vous dire qu'il n'en restait pas beaucoup. N'ayant rien à recevoir eux-mêmes, ils avaient pris le parti de mourir successivement, et leurs cadavres marquaient notre route. Le peu que nous en gardions avec infiniment de peine était mal sustenté. Nous avions, en arrivant à chaque station, la peine d'aller chercher de l'herbe pour eux, encore loin dans les montagnes. Ils étaient d'ailleurs épuisés de fatigue. Je sais bien que nous avions commencé à les décharger assez tôt de nos fusils et de nos fourniments que nous jetions dans le désert. Mais nous avions tenu le plus longtemps possible à conserver nos bagages. Bref, il fallut nous mettre nous-mêmes sur le dos ce que nous considérions comme le plus précieux. Ce qui était terrible, c'est que l'eau manquait. Il fallait passer plus de la moitié du jour à faire des trous dans la terre pour en découvrir un peu. Quand nous étions le plus favorisés, nous réussissions à mettre au jour une boue saumâtre qu'on clarifiait du mieux possible à travers des chiffons. Nous finîmes par n'avoir plus que de l'herbe à manger, un peu d'herbe. Beaucoup de nos camarades firent comme nos ânes, ils moururent. Cela ne nous empêchait pas de chanter. Car s'il fallait se désespérer de vos inséparables de la vie, mieux vaudrait n'être pas au monde, et d'ailleurs, avec de la patience, tout s'accommode. La preuve en est que les restes du régiment parvinrent à gagner Merchred. En vérité, nous n'avions pas une grande mine quand nous entrâmes dans la ville sainte. Le major était venu au-devant de nous avec quelques capitaines et un certain nombre de marchands de toutes sortes de victuailles. Nous payâmes assez cher ce qu'ils nous donnèrent, mais nous avions si faim que nous n'eûmes pas la peine de trop marchander. On ignore, quand on n'a pas éprouvé de telles traverses, on ignore ce que c'est que de contempler tout à coup de ses deux yeux une tête de mouton bouillie qui vous est offerte. Le bon repas que nous fîmes là nous remit la joie au cœur. Le major nous appela fils de chien parce que nous avions perdu nos fusils. Mais il nous en fit distribuer un certain nombre d'autres que l'on emprunta au régiment de Koslova pour cette circonstance, et nous aidant cotisé pour lui faire un petit présent, la bonne harmonie se rétablit entre lui et nous. Il fut convenu qu'il ferait de notre conduite un rapport favorable au colonel, pour lequel nous préparâmes encore un cadeau qui se montait à une dizaine de tomans. Ces arrangements pris, notre entrée à Merched fut fixée pour le lendemain. À l'heure dite, les tambours des autres régiments, déjà arrivés dans la ville, vinrent se mettre à notre tête. C'était indispensable, car nous avions jeté les nôtres aussi bien que nos fusils. Une grande troupe d'officiers, montés sur les chevaux que l'on avait pu trouver, se plaça derrière les tambours et ensuite nous nous avancions en aussi bon ordre que possible. Nous pouvions bien être 200 à 300 environ. Les gens de la ville nous reçurent avec assez d'indifférence, car depuis un mois on les régalait souvent du spectacle de pareilles entrées qui n'avaient rien de bien attrayant pour eux. On nous assigna ensuite un terrain pour y camper. Mais comme le sol en était marécageux, chacun se dispersa, espérant trouver en ville un abri et de quoi se pourvoir. Pour moi, je me dirigeais de suite vers la mosquée des saints imams. La dévotion m'y attirait, mais aussi l'idée que je pourrais y attraper une des portions de soupe que l'on distribue d'ordinaire aux malheureux. Et malheureux, j'avais des droits à prétendre l'être. L'univers entier ne connaît rien de plus beau que la vénérable mosquée de Merchen. Sa grande coupole, sa porte somptueuse et magnifique, les cloches d'or élégantes dont elle est flanquée, le tout revêtu du haut en bas de tuiles émaillées de bleu, de jaune et de noir, et sa superbe cour avec le vaste bassin destiné aux ablutions, ce spectacle transporte d'admiration. Du matin au soir, des multitudes de pèlerins venant de l'Iran, du Turkestan, du fond de l'Inde et des pays lointains du Roum apportent à l'imam Riza, que son nom soit glorifié, un tribut incessant de génuflexion, de prières, de dons et d'aumônes. L'espace sacré est toujours rempli d'une foule bruyante. Des bandes de pauvres viennent recevoir la nourriture que les moullahs leur préparent chaque jour. Aussi se verraient-ils tués avec joie pour les privilèges de la mosquée. Je m'avançais avec respect et émotion à travers les groupes, et comme je demandais discrètement à un des portiers, dont la tête était couverte d'un vaste et scientifique turban blanc, où je devais me rendre pour obtenir ma part de la distribution, ce digne et respectable turban, ou plutôt la tête qui en était chargée, me montra une physionomie surprise, plus joyeuse, et une large bouche, s'ouvrant au milieu d'une vaste barbe noire, pendant que deux yeux de jais s'allumaient de joie et se mit à pousser des cris de satisfaction. Que les 16 imams soient bénis, c'est toi-même, Baba Aga? Moi-même, répondis-je en regardant fixement mon interlocuteur, et après un moment d'hésitation, l'ayant parfaitement reconnu. Voilà, Bia Taya, m'écriai-je, mais c'est toi, cousin Soliman? Moi-même, mon ami, mon parent, lumière de mes yeux. Mais qu'as-tu fait de notre Leïla? Hélas, lui dis-je, elle est morte. Oh mon Dieu, quel malheur! Oui, elle est morte, continuai-je d'un air désolé, car sans cela serais-je ici. Je suis capitaine dans le 2e régiment de Kamsay, et bien heureux de te revoir. Il m'était venu dans l'esprit de dire à Suleyman que Leïla était morte, parce que je n'avais pas à lui parler d'elle et que je voulais passer le plus vite possible à un autre sujet de conversation. Mais il ne s'y prêta pas. « Dieu miséricordieux !» s'écria-t-il, « morte ! Leïla est morte ! Et tu l'as laissée mourir, misérable que tu es ! Savais-tu donc pas que je n'aime qu'elle seule au monde et qu'elle n'a jamais aimé que moi ? Pour que toi ! Lui répondis-je avec colère, que toi, c'est un peu hardi ce que tu me dis là. Pourquoi dans ce cas ne l'as-tu pas épousé? Parce que je ne possédais absolument rien du tout. Mais le jour même de ton mariage, elle m'a juré qu'elle divorcerait avec toi pour venir me trouver, aussitôt que je pourrais lui donner une maison convenable. C'est pourquoi je suis parti, je suis venu ici. Je suis devenu un des portiers de la mosquée. Et j'allais lui faire connaître ma fortune présente, quand voilà que tu m'accables par ce coup inattendu. » Là-dessus, il se mit à crier et à pleurer en balançant la tête. Oh, j'avais grande envie de lui asséner un bon coup de poing à travers le visage, car je n'étais pas content de tout ce qu'il venait de me révéler. Heureusement, je me rappelais soudain que c'était beaucoup plus désormais l'affaire de Kérim que la mienne. Je me bornais à m'écrier. Pauvre Leïla, oui, elle nous a bien aimés tous les deux. Oh, quel malheur qu'elle soit morte. Suleyman, à ce moment, se laissa tomber dans mes bras et me dit. Mon ami, mon cousin, nous ne nous consolerons jamais ni l'un ni l'autre. Viens dans ma maison. Je veux que tu sois mon hôte. Et pendant tout le temps que tu resteras à Meshed, j'entends que tout ce que je possède soit à toi. Je fus profondément attendri par par cette marque de bonté de ce cher Souleymane que j'avais toujours chéri du fond du cœur. Et le voyant si affligé comme il était, je pris la part la plus sincère à son chagrin et mêlai mes armes aux siennes. Nous nous en allâmes à travers la cour et, chemin faisant, il me présentait au moulin que nous rencontrions. « Voilà, leur disait-il, mon cousin Gacan, major du régiment de Kwanzé, un héros des anciens temps. Ni Oustem ni Afrasiab ne l'ont égalé en valeur. Si vous voulez venir boire une tasse de thé avec nous, vous en aurez singulièrement ma pauvre maison. » Je passai 15 jours chez Moulan Souleyman. Ce fut un moment, un bien court moment de délices. Pendant ce temps, on rassemblait les débris des régiments, dont la plupart n'étaient pas en meilleur état que le nôtre, ce qui est bien concevable après un long voyage. On nous donna, quelques-uns du moins, des souliers. On nous remit des fusils, ou du moins des instruments qui ressemblaient à des fusils. J'en parlerai plus tard. Quand nous fûmes à peu près équipés, nous apprîmes un beau matin que l'ordre du départ était donné et que le régiment allait se mettre en route pour Merve. Je ne fus pas trop content. C'était aller cette fois au milieu des hordes turcomanes, et Dieu sait ce qui pouvait arriver. Je passai une soirée fort triste avec Moulin Souleyman. Il tâcha de me consoler de son mieux, le brave homme, et me versa force thé bien sucré. Nous bûmes aussi un peu de raki. Il revint sur l'histoire de Leïla et me fit raconter les circonstances de la mort de cette pauvre enfant pour la 10e, peut-être. J'eus quelque idée de le détromper, mais puisque j'avais tant fait que de lui raconter les choses d'une façon, il me parut plus naturel de continuer et de ne pas le jeter dans de nouvelles perplexités. Le pauvre ami, il avait été si bon pour moi que je me fis un plaisir mélancolique dans la disposition où j'étais de me rappeler de nombreux détails où, cette fois, je mêlais des souvenirs qui m'avaient échappé jusque-là et d'où il résultait que, avant d'expirer, la chère enfant que nous regrettions tous les deux s'était souvenue de lui avec beaucoup d'affection. Je ne peux pas prétendre que tout à fait que mes récits fussent mensongers, car j'avais tant besoin de m'attendrir sur moi et sur les autres qu'il m'était tout à fait aisé de parler de choses tristes et touchantes. Et vraiment, je puis affirmer que je le faisais d'abondance de cœur. Souleyman et moi, nous mêlâmes encore nos larmes, et quand je le quittais vers le matin, je lui jurais du plus profond de mon cœur de ne jamais l'oublier, et l'on voit que j'ai tenu parole. Il m'embrassa de son côté avec une véritable affection. Je rejoignis alors mes camarades. Le régiment se mit en marche, et moi avec lui, dans les rangs à côté de mon véhicule. Nous étions fort nombreux. Je vis passer de la cavalerie. C'étaient des hommes des tribus du sud et de l'ouest. Ils avaient assez bonne mine, meilleurs que nous. Mais leurs chevaux mal nourris ne valaient pas grand-chose. Les généraux étaient restés à Merched. Il paraît que c'est absolument nécessaire ainsi. Parce que de loin, on dirige mieux que de près. Les colonels avaient imité les généraux, sans doute pour la même raison. En somme, nous avions peu d'officiers au-dessus du grade de capitaine, et c'est très à propos, attendu que les officiers ne sont pas faits pour se battre, mais pour toucher la paix des soldats. Presque tous les chefs étaient des cavaliers nomades. Ceux-là étaient venus avec nous. Mais on sait que ce genre d'homme est très peu cultivé, grossier et ne pensant qu'à la bataille. On avait envoyé l'artillerie en avant. Nous marchions depuis 3 jours. Il pleuvait à verse et il faisait un temps très froid. Nous marchions avec beaucoup de peine sur un terrain limoneux où ceux qui ne glissaient pas s'enfonçaient quelquefois à mi-jambe. À chaque instant, on avait à franchir de larges coupées pleines d'eau bourbeuse. Ce n'était pas une petite affaire. J'avais déjà perdu mes souliers et, comme mes compagnons, à force de tomber dans les bourbiers, de me mettre à l'eau jusqu'à la ceinture et de grimper à quatre pattes sur des berges abruptes, j'étais couvert de fange et tellement mouillé que je grelottais. Depuis la veille au soir, je n'avais pas rien mangé, et tout à coup nous entendîmes le canon. Nos bandes s'arrêtèrent subitement. Oui, nous entendîmes le canon. Il y eut plusieurs décharges, puis tout d'un coup nous n'entendîmes plus rien. Ils y ont un moment de silence. Soudain, nous vîmes tomber au milieu de nous un train de canonniers, fouettant les chevaux à toute outrance et se jetant sur nous. Quelques hommes furent écrasés, ceux qui purent se rangèrent. Les canons cahotés, sautant, s'arrêtant, tombèrent les uns dans la boue, les autres dans l'eau. Les canonniers coupèrent les traits des attelages et s'enfuirent, vite comme le vent. Ce fut un ourvari, un tourbillon, une mêlée, un éclair. Nous n'eûmes pas le temps de comprendre, et presque aussitôt, ceux qui étaient en première ligne aperçurent un nuage de cavalerie qui se dirigeait rapidement de notre côté. Un cri général s'éleva. « Les Turcomans! Les Turcomans! Faites feu !» Je ne distinguais absolument rien. Je vis quelques hommes qui, au lieu d'abaisser leurs armes, se jetaient à la suite des canonniers. J'allais faire de même quand le Vekil, m'arrêtant par le bras, cria dans mon oreille au milieu du tapage. « Tiens bon, Agabeg! Ceux qui fuient aujourd'hui sont des gens perdus !» Il avait raison, tout à fait raison, le brave Vekil. Et mes yeux m'emportèrent immédiatement le témoignage. Je vis, comme je vous vois, cette masse de cavalerie dont je viens de parler, se diviser comme par enchantement en des myriades de pelotons qui, courant à travers la plaine et évitant les obstacles avec l'habileté de gens au fait du pays, tournaient, enveloppaient, saisissaient les fuyards et les accablant de coups, prenaient leurs armes et faisaient des centaines de prisonniers. « vous voyez, mes enfants !» s'écria de nouveau le Vekil. « Voilà le sort qui vous attend, qui nous attend, si nous ne savons pas nous tenir ensemble. Allons, courage, ferme, feu !» Nous étions là, une cinquantaine à peu près. Le spectacle effrayant étalé sous nos regards donna une telle force aux exhortations du sergent que lorsqu'un gros de ces pillards maudits s'avança vers nous, notre troupe se pelotonna rapidement et nous fîmes feu en effet, et nous rechargeâmes, et nous fîmes feu une seconde fois, et une troisième fois, et une quatrième fois. Par les saints imams, nous vîmes tomber quelques-uns de ces hérétiques, de ces chiens maudits, de ces partisans d'Aboukir, d'Omar et d'Osman. Puis ces monstres brûlés éternellement dans l'enfer. Nous les vîmes tomber, vous dis-je, et cela nous donna un tel entrain que, sur le commandement du Vekil et sans nous disjoindre, nous partîmes d'un mouvement en avant pour aller chercher cet ennemi qui s'était arrêté et ne venait pas à nous. Après un moment d'hésitation, il recula et s'enfuit. Pendant ce temps, les autres bandes turcomanes continuaient à donner la chasse aux fuyards, à les ramasser et à en tuer quelques-uns, à battre les autres, à emmener ceux qui pouvaient marcher. Nous poussâmes des cris de triomphe. « Allah, Allah, Ya Ali, Ya Hassan, Ya Hussein !» Nous étions comme de la joie, nous étions délivrés, et nous n'avions peur de rien. Au fond, nous étions parfaitement heureux. Sur 50 environ que nous étions, nous avions éprouvé que 30 de nos fusils étaient en état de servir. Le mien, je ne dis pas. D'abord, il n'avait pas de chien, et ensuite le canon était fendu. Mais c'était pourtant une bonne arme, comme je l'éprouvais par la suite. J'avais attaché la baïonnette, qui n'avait pas de douille, avec une forte corde. Cette baïonnette tenait à merveille, et je n'attendais qu'une occasion de m'en servir. Je vous dirai que notre exemple avait été suivi. Nous aperçûmes, à une petite distance, trois ou quatre groupes de soldats faisant feu, et les Turcomans n'osaient approcher. En outre, une troupe de 300 à 400 cavaliers, à peu près, avait chargé lestement l'ennemi et lui avait repris des prisonniers et un canon. Malheureusement, on ne savait ce que les canonniers étaient devenus, ni leurs caissons. Nous jetâmes la pièce dans un fossé. Pendant une heure, nous aperçûmes les Turcomans, qui au loin continuaient à prendre des hommes. Puis ils disparurent à l'horizon avec leurs captifs. Alors nos différents groupes se rapprochèrent. Nous vîmes qu'en tout, nous pouvions être à peu près au nombre de 700 à 800. Ce n'était pas beaucoup sur 6 à 7 000 qui étaient sortis de Merched. Mais enfin, c'était quelque chose. Et quand nous nous retrouvâmes, considérant quel lion terrible nous étions, nous ne doutâmes pas un instant d'être en état de regagner un terrain où les Turcomans ne seraient pas en état de nous prendre. Et nous étions si contents que rien ne nous semblait difficile. Notre chef se trouva être le Yuxbashi des cavaliers. C'était un Kurde, appelé Rezi Khan, grand, bel homme, avec une barbe courte, des yeux de feu et magnifiquement équipé. Il était tellement joyeux que son bonheur semblait exalter son cheval même, et l'homme et la bête lançaient des flammes par tous leurs mouvements. Il y avait aussi un certain Abdulkarim des Batriaris, un grand gaillard avec des épaules d'éléphant. Il nous criait « mes enfants, vous êtes de Rerovstem et des Kriskander, nous exterminons cette canaille turcomane jusqu'au dernier homme ». Nous étions ravis. On se mit à chanter. L'infanterie avait deux chefs, un lieutenant que je ne connais pas et notre Vekil. Le brave homme s'écria « Maintenant, il faut des vivres et de la poudre !» On s'aperçut qu'on mourait de faim. Puis il y avait pourtant du remède. Nous nous mîmes tous à arracher des herbes dans la plaine. Une partie fut réservée pour les chevaux. Avec le reste, on résolut de faire la soupe. Mais la pluie continuait à tomber à flots, et il était d'autant plus difficile d'allumer du feu qu'il n'y avait pas de bois. On aurait pu en faire avec de l'herbe sèche. De l'herbe desséchée, on en avait tant qu'on voulait, seulement elle était gonflée d'eau. On prit donc son parti de manger l'herbe comme elle était. Ça n'était pas bon, mais l'estomac était rempli et ne criait plus. Pour la poudre, la question restait difficile. En partant de Merched, on ne nous en avait guère donné. Les généraux l'avaient vendue. Quand il fallut s'en procurer, cette fois, ce fut laborieux. Sur les morts, on ramassa quelques cartouches. Nous avions environ 300 fusils en état de partir et tout compte fait, pour chaque fusil, on eut 3 charges. Rezi Khan recommanda bien à chacun de ne pas tirer avant qu'il en donnât l'ordre. Mais on était si contents que quelques-uns brûlèrent leurs charges le soir même pour célébrer la victoire. Du reste, il importait peu, nous avions de bonnes baïonnettes. Par un hasard très favorable, on découvrit aux environs une sorte de camp retranché, construction des anciens païens, avec 4 remparts de pierre et au milieu une sorte de mare. Nous allâmes nous enfermer là pour y passer la nuit. Nous fîmes bien, car à l'aube les Turcomans revinrent, et comme ils étaient plus nombreux que nous, s'ils nous avaient attaqués de nouveau en rase campagne, nous aurions pu avoir assez de peine. Derrière nos murs, nous fîmes feu sur les ennemis et nous en tuâmes quelques-uns. Enragés, ils mirent pied à terre et montèrent comme des fourmis sur nos pierres accumulées. Alors nous tombâmes dessus à la baïonnette et, résiquant à notre tête, nous les maltraitâmes tellement que, après 10 minutes d'effort, ils lâchèrent pied et s'enfuirent. Malheureusement, Rezi Khan et le grand Bakhtiari, qui combattaient comme des tigres, furent tués l'un et l'autre. Moi, je reçus au bras un coup de couteau, mais Dieu est grand. Ce fut une égratignure. Voyez néanmoins quel scélérat sont ces Turcomans. Ils s'enfuirent, oh, mais pas bien loin. Ils revinrent presque tout de suite et commencèrent à cavalcader autour de nos murailles. Ils avaient, à ce qu'il paraît, remarqué que nous n'avions pas tiré beaucoup. Ils s'aperçurent aisément que nous ne tirions plus du tout. La raison était bonne, de poudre il n'en restait rien. Pas un grain, pas un atome. Dieu sait parfaitement ce qu'il fait. Nos ennemis voulurent alors essayer d'un nouvel assaut et une partie d'entre eux se transforma encore une fois en infanterie. Et les voilà qui se mettent à grimper sur le talus du fort comme des fourmis. Levé qu'il à notre tête, nous sortîmes. Nous les bousculons encore, nous en tuons une douzaine. Ils s'enfuient, la cavalerie nous charge. Nous n'avons que le temps de rentrer dans notre trou et nous voyons de loin la tête du Vekil au bout d'une lance courir au milieu des Turcomans. Ah, je ne dois pas oublier de vous dire que nous avions eu grand froid la nuit. Pas un fil n'était sec sur nos pauvres corps. La pluie tombait toujours. Un peu d'herbe mouillée dans nos estomacs nous soutenait mal. Pour moi, je souffrais beaucoup. Et il nous était mort une soixantaine d'hommes, sans qu'on puisse s'expliquer pourquoi ni comment. Dieu très haut et miséricordieux l'avait voulu ainsi. La nuit fut encore très mauvaise. Nous n'avions que la ressource de nous serrer les uns contre les autres pour essayer de nous rappeler un peu ce que c'était que la chaleur. Pourtant, vers le matin, le ciel s'éclaircit. Il faisait froid. Nous nous attendions à être attaqués. Le lieutenant se trouva mort. Vers midi seulement, les Turcomans parurent, mais ils restèrent assez loin. Le soir, ils s'enhardirent et vinrent apporter du mousquet, mais tournaient autour du retranchement. Puis ils se retirèrent. La nuit nous emporta encore du monde. En définitive, nous n'étions plus que 400 et personne ne nous commandait. Mais nous savions ce qu'il fallait faire, et en cas d'attaque, nous serions encore tombés à la baïonnette sur les impies. Pourtant, nous étions très affaiblis, tous. C'était à peu près vers l'heure de la prière de l'ASR et le soleil penchait sur l'horizon, quand au loin, nous vîmes arriver des bandes turcomanes en plus grand nombre que les jours précédents. Chacun se leva comme il put et prit son fusil. Mais à notre grand étonnement, toute cette multitude s'arrêta à une longue distance de nous, et 4 ou 5 cavaliers seulement, se détachant du gros de leurs camarades, s'avancèrent vers nous en nous faisant des signes d'amitié, indiquant de leur mieux qu'ils désiraient nous parler. Plusieurs des nôtres étaient d'avis de sortir brusquement et d'aller leur couper la tête. Mais à quoi bon ? C'est ce que je fis remarquer, ainsi que d'autres camarades, et après une courte discussion, tout le monde se rangea à mon avis. Nous allâmes donc au-devant de ces fils de chiens, et leur ayant de profonds saluts, nous les introduisîmes dans notre enceinte. Chacun s'assit par terre, de manière à former un cercle autour des nouveaux venus, que nous fîmes prendre place sur des couvertures de chevaux. Valabiatala, il y avait une grande différence entre eux et nous. Nous avions l'air de fantômes roulés dans la boue et ruisselants de misère. Eux, ils portaient de bons habits avec des fourrures, des armes brillantes et des bonnets magnifiques. Quand ils eurent pris place, ayant été chargés de porter la parole, je dis à ces maudits, « Que le salut soit sur vous !» « Et sur vous le salut !» répondirent-ils. « Nous espérons, repris-je, que les santés de vos excellences ne laissent rien à désirer, et puissent tous vos cœurs être comblés dans ce monde et dans l'autre. « Les bontés de vos excellences sont infinies !» répliqua le plus âgé des Turcomans. C'était un grand vieillard, avec un nez aplati, un visage rond comme une pastèque, des poils de barbe par-ci par-là et des yeux en croissant de lune retournés. « Quels ordres veulent-nous transmettre vos excellences ?» poursuivis-je. « C'est nous, dit le vieux Turcoman, c'est nous qui venons présenter une requête à vos altesses. Vous savez que nous sommes de malheureux pères de famille, de pauvres laboureurs, esclaves du roi des rois et serviteurs de l'Iran bien gardés. Depuis des siècles, nous nous efforçons par tous les moyens qui sont dans notre pouvoir de prouver à l'auguste gouvernement l'excès de notre affection. Malheureusement, nous sommes très pauvres. Nos femmes et nos enfants crient la faim. Les champs que nous cultivons ne rapportent pas assez pour les nourrir. Et si nous n'avions pas quelques occasions de réussir dans un petit commerce d'esclaves, ce qui ne fait de mal à personne, il nous faudrait expirer de misère, nous et les nôtres. Mais pourquoi nous persécuter? Tout ce que vient de nous exposer votre Excellence est de la plus exacte vérité, repartis-je. Pour nous, nous sommes de très humbles soldats. Si on nous a envoyés ici, nous ne savons pas pourquoi. Maintenant, déjà comblés des bontés de vos Excellences, nous osons vous prier de nous permettre de retourner à la sainte ville de Merched, d'où nous sommes venus. Le Turc commence, s'inclina de la manière la plus aimable et me répondit « Plutôt au ciel que cela fût possible. Mes compagnons et moi sommes tout prêts à vous offrir nos chevaux et à vous prier d'accepter 1000 marks de notre amitié. Mais jugez vous-même de notre triste position. L'auguste gouvernement nous a attaqués sans motif, nous qui ne faisions de mal à personne, et en outre les vifs sont rares. Vous n'avez rien à manger, mais nous n'avons guère mangé depuis une semaine. Venez avec nous, vous serez bien traités. Nous ne vous vendrons ni à Bokhara ni à Kiva. Nous vous garderons chez nous, et si vos amis veulent vous racheter, nous serons tout prêts à accepter les rançons les plus raisonnables. Cela ne vaut-il pas mieux d'attendre paisiblement votre délivrance sous nos tentes auprès d'un bon feu que de risquer d'aller mourir de misère sur la route ? Le vieux Turcoman avait la mine d'un brave homme. Ses camarades se mirent à nous parler de pain frais, de lait caillé, de mouton rôti. Il y eut une grande émotion parmi nous. Subitement, chacun jeta son fusil et les ambassadeurs s'étant levés, on les suivit de plein gré. Quand nous arrivâmes avec eux auprès des cavaliers, nous fûmes parfaitement accueillis. On nous plaça au milieu de la bande et, tandis que nous marchions, nous causions avec nos maîtres qui nous parurent de braves gens. De temps en temps, à la vérité, quelqu'un de nous recevait un bon coup de fouet, mais c'était parce qu'il ne marchait pas assez vite. Du reste, tout se passa très bien, sauf que, pour des gens aussi fatigués que nous l'étions, ce fut un peu dur d'avoir à faire un trajet de 8 heures à travers les terres épaisses avant que d'avoir atteint le campement vers lequel on nous menait. Les femmes et les enfants étaient venus à notre rencontre. Ce fut le moment le plus difficile à passer. Il paraît que dans cette foule il y avait des veuves de quelques jours dont nous avions tué les maris et des mères qui étaient fâchées de ce que nous avions fait à leurs fils. Les femmes sont méchantes dans tous les pays du monde. Celle-là était atroce. Le moins qu'elles auraient voulu nous faire eût été de nous déchirer avec leurs ongles si on les en eût laissés libres. Les enfants ne demandaient pas mieux que de nous traiter aussi mal. Et pour débuter, ils nous accueillirent par des hurlements et une volée de pierres. Par bonheur, les hommes ne se montrèrent pas du tout disposés à nous laisser abîmer, et moitié grondant, moitié riant, donnant aussi ça et là quelques horions à ces furies, ils réussirent à nous introduire dans le camp et à mettre nos ennemis et leurs petits auxiliaires, sinon hors d'état de nous injurier, ce qui ne nous causait aucun mal, du moins hors de portée de nous mettre en sang. Quand nous fûmes tous rassemblés sur la place, on nous compta et on nous avertit que ceux qui chercheraient à s'enfuir seraient tués aussitôt. Après cette déclaration, on nous distribua entre les différents cavaliers qui nous avaient pris et dont nous devînmes les esclaves. Tel acquit ainsi 10 prisonniers, tel autre 5 et celui-ci 2. Pour moi, je fus adjugé à un garçon encore très jeune qui m'emmena aussitôt chez lui. Mon maître n'était pas pauvre. Je m'en aperçus en entrant sous sa tente. Cette tente était de l'espèce de celle que l'on nomme analgique, faite avec des cloisons et des murs d'osier tressés, recouverts de feutres épais. Le plancher était en bois avec des tapis. Il y avait 3 ou 4 coffres peints de toutes sortes de couleurs, un grand lit avec des coussins, et au milieu de la tente, un poêle d'où s'exhalait une agréable chaleur. Dans cette charmante habitation, j'aperçus une jeune femme. Elle allaitait un nourrisson. la saluai avec respect. C'était certainement ma maîtresse, mais elle ne leva pas les yeux sur moi, et à peine regarda-t-elle son mari. Je vous dirai de suite ce que c'est que les femmes turcomanes. Rien de bien intéressant. Elles sont laides à faire fuir le diable. Témoin la jeune dame de la tente où j'étais amené, et que j'appris ensuite être une des beautés du pays. M'en serais guère douté au premier abord. Elle ressemblait à un portefeuille de Tébris. Elle avait des épaules larges et plates, une grosse tête, des petits yeux, des pommettes saillantes, une bouche comme un four de boulanger, le front plat et sur la poitrine deux montagnes. Hors de vue de pires encore. Ces femmes-là sont stupides, méchantes, brutales. Elles ne savent que travailler, mais aussi on les fait travailler comme des mules. Eux, on a raison. Le maître dit à la dame, « Mets l'enfant de côté et sers-moi à souper. » La dame obéit tout de suite. Elle commença à remuer des plats et des assiettes et elle me fit un signe de la suivre hors de la tente. J'obéis immédiatement, ayant conçu l'idée de l'attendrir par mon zèle. Elle me conduisit dans une espèce de cabane qui servait de cuisine, où bouillait je ne sais quoi dans une marmite. Elle me fit un signe que je ne compris pas bien, et sans me rien expliquer, elle prit un bâton et m'en déchargea un coup sur la tête. Voilà, pensais-je, une manière de monstre qui ne me rendra pas la vie facile. Je me trompais. C'était une brave femme. Elle me battait souvent, elle était ponctuelle, voulait que tout se fît à sa manière, mais elle me nourrissait bien, et quand elle se fut un peu habituée à moi, elle me parla davantage, et je réussis plus d'une fois à la tromper, sans qu'elle s'en soit jamais aperçue. Quand elle était de bonne humeur, elle me disait en riant aux éclats, « N'est-ce pas que vous autres gens de l'Iran, vous êtes plus bêtes que nos chevaux ?»« Oui, maîtresse, répondais-je avec humilité. C'est bien vrai, Dieu l'a voulu ainsi. Les Turcomans, continuait-elle, vous pillent, vous volent, vous emportent vous-même, et vous vendent à qui ils veulent, et vous ne savez pas trouver un moyen de les en empêcher. C'est vrai, maîtresse, répliquai-je encore, mais c'est que les Turcomans sont des gens d'esprit, et nous nous sommes des ânes. Alors elle recommençait à rire aux éclats, et ne s'apercevait jamais que son lait et son beurre diminuaient à mon profit. J'ai toujours remarqué que les gens les plus forts sont toujours les moins intelligents. Ainsi voyez les Européens. On les trompe tant que l'on veut, et partout où ils vont, ils s'imaginent qu'ils sont supérieurs à nous parce qu'ils sont les maîtres. Ils ne savent pas et ne sauront jamais apprécier cette vérité que l'esprit est bien au-dessus de la matière. Les Turcomans se montrent exactement pareils. Ce sont des brutes comme eux. Je fus employé par mes propriétaires à fendre du bois, à porter de l'eau, à conduire les moutons à la pâture. Quand je n'avais pas d'ouvrage, j'allais me promener à la campagne. Je m'étais fait quelques amis et je chantais des chansons. Je savais aussi fabriquer des pièges pour prendre les souris, et j'appris à quelques femmes à confectionner des plats persans que les hommes trouvaient admirables. On me récompensait en me donnant du thé beurré et des galettes. Il y avait aussi assez souvent des notes, et j'y dansais, ce qui faisait rire beaucoup toute l'assistance, qui d'ailleurs était de très bonne humeur, et on peut bien comprendre pourquoi. Notre camp, les camps voisins et toute la nation étaient dans un état d'exaltation à cause de la victoire. Les prisonniers regorgeaient et on s'attendait à gagner gros avec eux. Ensuite, le premier mouvement d'humeur passé, toutes les veuves avaient été enchantées de leur situation. Et il ne se pouvait pas qu'il en fût autrement, car une jeune fille turcomane ne vaut pas 5 tomans en or. Et il faut des circonstances particulières pour qu'on aille en chercher une quand on veut se marier. Au contraire, une veuve a beaucoup de valeur et elle est souvent estimée très haut. Cela dépend de l'expérience qu'elle a acquise pour la conduite d'un ménage, de sa réputation d'économie et de l'habitude qu'elle a de diriger tout autour d'elle. Et en outre, on sait précisément si elle peut ou non donner des enfants à son mari. Quant à l'amour, vous pouvez bien penser qu'avec la figure de ces dames-là, il n'en est pas question. Personne n'y songe, ni ne comprend ce que ça peut être. J'essayais une fois de raconter à ma maîtresse la passion si touchante et si belle que Medjoun éprouvait pour Leïla, et qui me rappelait ma Leïla à moi-même et me jetait dans des transports de douleur. Ma maîtresse me battit outrageusement pour avoir osé l'ennuyer de pareilles sottises. Elle était encore bien jeune, mais elle avait déjà eu deux maris avant celui qu'elle tenait pour le moment, et trois enfants par-dessus le marché. Aussi jouissait-elle d'une immense considération. Et c'était un honneur pour moi, auquel j'étais sensible, que d'appartenir à une pareille dame. Il y avait environ 3 mois que je vivais là assez paisiblement, et je commençais à m'habituer à mon sort. En vérité, comme je l'ai dit, il n'était pas très dur. Quand un matin, me promenant désœuvré dans le camp, je fus abordé par 2 autres esclaves, persans comme moi, soldats du régiment de Goum, qui me dirent savoir d'une façon certaine et qui me jurèrent sur leur tête que nous allions être délivrés dans la journée et renvoyés à Meshed. Mais on déjà avait fait courir ce bruit si souvent, et si souvent il s'était trouvé faux, que je me mis à rire et conseillai à mes camarades de ne pas trop croire à ce qu'on leur avait annoncé et de continuer à faire provision de patience. Cependant, en les quittant, je me trouvais, comme chaque fois que j'entendais de pareilles nouvelles, assez troublé et ému. Je sais bien qu'il se passe assez de vilaines choses dans l'Iran et qu'on y trouve bien du mal. Pourtant, c'est l'Iran et c'est le meilleur, le plus saint pays de la terre. Nulle part au monde on éprouve autant de plaisir ni autant de joie. Quand on y a vécu, on y veut retourner. Et quand on y est, on y veut mourir. Je ne croyais pas du tout à ce que mes 2 camarades m'avaient dit. Pourtant, le cœur me battait et je me sentais triste. Et si triste que, au lieu de continuer à me promener, je retournais chez mon maître. Il venait précisément de descendre de cheval et je le vis qui causait avec sa femme. En m'apercevant, il m'appela. « Aga, me dit-il. Tu n'es plus mon esclave, on t'a racheté. Tu es mon hôte et tu vas partir pour Meshed. » Je fus tellement saisi en entendant ces paroles que je me crus sur le point d'étouffer et il me sembla voir la tente tourner autour de moi. « Est-ce vrai ? » m'écriai-je. « Mais que ces Iraniens sont bêtes ! » dit la femme en riant. « Mais qu'est-ce qu'il y a là d'extraordinaire ? » Ton gouvernement a racheté ses soldats au prix de 10 tomans par tête. On aurait pu les lui vendre moins bon marché, mais puisque cette sottise est faite et que nous avons touché notre argent, va-t'en chez toi et ne fais pas le sot. À peine entendis-je ce que disait cette créature, il me passa comme une vision devant les yeux. Je vis, oui, je vis la jolie vallée du Kamchatch où je suis né. J'aperçus distinctement le ruisseau, les saules, l'herbe touffue, les fleurs, l'arbre au pied duquel j'avais enfoui mon argent, ma belle, mon adorée Leïla dans mes bras, mes chasses, mes gazelles, mes tigres, mon cher Kérim, mon excellent Suleyman, mon bien brave Abdullah, tous mes cousins, le bazar de Téhéran, la boutique de l'épicier, celle du rôtisseur, les figures des gens que je connaissais. Oui, 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 ma vie entière m'apparut dans cette minute, et une voix criait en moi, « Tu vas la recommencer !» Je me sentis ivre de bonheur. J'aurais voulu chanter, danser, pleurer, embrasser tout ce qui se montrait à mon esprit en ce moment de félicité suprême, et je me mis à pousser des cris d'angoisse. « Imbécile !» me dit la femme. « Tu as bu du raki au soir, et peut-être encore ce matin, oh, si je t'y reprends jamais !» Le mari se mit à rire. Mais tu n'y reprendras jamais, car il part aujourd'hui même. Et à dater de ce moment, je te le répète, Aga, tu es libre. J'étais libre. Je me précipitai hors de la tente et je me dirigeai en courant vers la grande place au milieu du camp. De toutes les habitations sortaient mes pauvres camarades, aussi exaltés que moi. Nous nous embrassions, nous ne manquions pas de remercier Dieu et les imams. Nous crions de tout notre cœur: Iran, cher Iran, lumière de mes yeux. Et alors j'appris peu à peu comment il se faisait que nous sortions tout à coup des ténèbres pour entrer dans une si belle clarté. Il paraît que, depuis la perte de notre armée et le commencement de notre captivité, il s'était passé bien des choses. Le roi des rois, en apprenant ce qui s'était passé, était entré dans une grande colère contre ses généraux et les accusait d'avoir laissé ces pauvres soldats s'en aller tout seuls contre l'ennemi sans les accompagner. Il les avait accusés aussi d'avoir vendu les vivres, la poudre, les armes et les vêtements qui leur étaient destinés. Enfin, il avait déclaré sa ferme résolution de faire couper le cou à tous les coupables. Il aurait peut-être bien agi en exécutant cette menace, mais après tout, à quoi bon? Après ces généraux-là, il y en aurait eu de tout pareil. C'est le train du monde. Rien n'est à y changer. De sorte que Sa Majesté se conduisit beaucoup plus sagement en calmant sa colère. Il arriva seulement que les ministres et les colonnes de l'Empire reçurent force cadeaux de la part des accusés. On révoqua un ou deux de ceux-ci pour quelques mois. Le roi eut des présents magnifiques et il fut résolu que les chefs rachèteraient tous les soldats captifs chez les Turcomans et les rachèteraient à leurs frais, puisqu'il était cause du malheur arrivé à ces pauvres diables. La question étant ainsi réglée, les généraux avaient naturellement pris à partie les colonels et les majors, qui avaient fait absolument comme eux. Ils les menacèrent de les mettre sous le bâton, de les destituer, même de leur couper la tête, et firent si bien qu'à la fin, on s'entendit encore de ce côté-là. Les colonels et les majors donnèrent des cadeaux à leurs supérieurs, et ceux-ci rentrèrent un peu dans les dépenses que le soin de leur sûreté venait de leur faire faire à Téhéran. Cependant, ils avaient envoyé des émissaires parmi les tribus turcomanes pour traiter du rachat des captifs. On avait eu quelques difficultés à s'entendre. Pourtant, on était tombé d'accord, et voilà comment et pourquoi, après avoir passé dans une agitation incroyable, dans une sorte d'extase de bonheur, et après avoir pris congé de nos anciens maîtres et de nos anciens amis turcomans, nous nous mîmes en route pour Merched, marchant, je vous en réponds, comme l'oiseau qui va s'envoler. Le temps était superbe, la nuit, les étoiles brillaient aux cieux comme des diamants. Le jour, un beau soleil éclatant couvrait le soleil et la terre de paillettes d'or qui tombaient à flots de son cercle enflammé. L'univers entier nous riait à nous autres pauvres malheureux soldats. Oui, les plus malheureux, les plus abandonnés, les plus maltraités des êtres, qui sortions d'un excès de mal pour retomber au moins dans l'espérance. Et nous marchions allègrement, et nous chantions à plein gosier, et ainsi nous arrivâmes à 2 heures de Meshed. Nous voyions clairement devant nous venir, sur le ciel bleu, et les coupoles, et les minarets, et les murs émaillés de la mosquée sainte, et les innombrables files des maisons de la ville. Et comme nous pensions à ce que nous allions trouver tout à l'heure de bon pour nous dans le sein de cette apparition céleste, nous nous trouvâmes tout à coup arrêtés par 2 régiments rangés en travers du chemin, et devant lesquels se trouvait une troupe d'officiers. Nous nous arrêtâmes et fîmes de profonds saluts. Un moulla, sorti du groupe des officiers, s'avança vers notre troupe. Quand il fut à portée de la voix, il éleva les 2 mains en l'air et nous adressa le discours suivant: Mes enfants, gloire à Dieu, le Seigneur des mondes, puissant et miséricordieux, qui a retiré le prophète Younes du ventre de la baleine et nous des mains des féroces Turcomans. Amen, s'écria toute notre troupe. Il faut le remercier, en entrant humblement dans Merchmen, Humblement, vous dis-je, et comme il convient à des malheureux prisonniers. Nous sommes prêts, nous sommes prêts. Vous allez donc tous, mes enfants, comme des hommes pieux et des musulmans fidèles, mettre à vos mains des chaînes, et la population entière, attendrie par cette preuve de vos malheurs, vous comblera de ses bénédictions et de ses aumônes. Nous trouvâmes cette idée excellente et nous en fûmes charmés. Alors, des soldats, sortis des rangs des deux régiments, s'approchèrent. Ils nous mirent au cou des carcans de fer et aux mains des menottes, et on forma ainsi de nous des bandes de 8 à 10 enchaînées. Cela nous faisait rire beaucoup, et nous nous trouvions très bien ainsi, quoique le poids de métal fût un peu accablant. Mais il ne s'agissait que de le porter pendant quelques heures, et c'était une vétille. Quand notre toilette fut terminée, les tambours, la musique, les officiers et un régiment partirent en tête. Nous venions ensuite dans notre équipage lamentable, mais fort contents, et sur nos talons marchait l'autre régiment. Bientôt nous aperçûmes la foule des méchédises venant à notre rencontre. Nous la saluâmes et nous eûmes le plaisir de nous entendre couvrir de bénédictions. Cependant, le tambour roulait, la musique jouait et quelques pièces de canon firent des salves en notre honneur. Une fois dans la ville, on nous sépara. Les uns prirent une rue, les autres une autre, et des soldats nous escortaient. Pour moi, avec les 7 camarades enchaînés du même train, les menottes au poing, le carcan au cou, on nous mena dans un corps de garde où il nous fut permis de nous asseoir sur la plateforme. Là, le sergent qui commandait notre escorte nous engagea à solliciter la charité des passants. Cette idée était excellente, nous la pîmes à l'instant à exécution, avec un succès merveilleux. Les hommes, les femmes, les enfants nous apportaient à l'envi du riz, de la viande et même des friandises. On nous donnait peu d'argent. Je crois que les braves gens qui venaient à notre aide n'en avaient pas beaucoup pour eux-mêmes. Le soir, un officier arriva. Nous le priâmes de nous faire détacher, de nous laisser vaquer chacun à nos affaires. Pour moi, je ne songeais qu'à aller passer une bonne nuit, dont j'avais grand besoin, chez mon ami et parent, Moulin Souleyman. L'officier nous dit, « Mes enfants, il faut être raisonnable. Vous autres, vous avez été délivrés par la générosité incomparable et surhumaine de mon oncle, le général Alika. Il a donné pour chacun de vous à vos maîtres 10 tomans. Serait-il juste qu'il perdît une si forte somme? Non, ce ne serait pas juste, vous en conviendrez. D'autre part, s'il vous laissait aller, bien que vous soyez tous très honnêtes et incapables de renier vos dettes, le malheur que vous n'ayez aucune ressource. De pauvres soldats, où trouveraient-ils de l'argent? Dans cette pensée, mon oncle, la bonté même, va vous en faire trouver. En vous laissant la chaîne au cou jusqu'à ce que vous ayez réuni chacun 15 tomans, que vous lui remettrez fidèlement, il vous procure le moyen de toucher le cœur des musulmans et d'exercer la charité publique. Ne vous désolez pas. Racontez vos malheurs, continuez à solliciter ceux qui vous approchent. Appelez-les tous, ces braves gens qui passent là. Ils viendront. Vous voyez qu'ils vous nourrissent très bien. Peu à peu, la pitié les touchera davantage et leurs bourses s'ouvriront. Je ne vous trompe pas. Oh, dans quelques jours, quand vous n'aurez plus d'espoir de rien recueillir ici, on vous fera partir. Vous retournerez ainsi à Téhéran. De là, vous irez à Ispahan, à Shiraz, à Kermanshah. Par toutes les villes de l'Iran, bien gardées, vous finirez par payer cette dette. » L'officier se tut, mais nous nous mîmes en colère. Le désespoir nous prit. Nous commençâmes à l'appeler « fils de chien », et nous étions en bonne voie de ne pas épargner davantage ni son oncle, ni les femmes, ni la mère, ni les filles de son oncle, il n'en avait peut-être pas, quand, sur un signe de notre bourreau, nos gardiens nous tombèrent dessus, et on nous battit, on nous jeta par terre, on nous foula aux pieds. Oh, j'eus presque une côte enfoncée, et ma tête fut toute enflée de deux grosses bosses. Alors, il fallut se rendre sage. Chacun se soumit, et après avoir, pour ma part, pleuré dans un coin une bonne demi-heure, je me résignai et commençai, d'une voix lamentable, à solliciter de nouveau les aumônes des passants. Il ne manquait pas de gens charitables, et tout le monde sait que, grâce soit au rendu au Dieu Tout-Puissant, il y a dans l'islam grande bonne volonté à venir en aide aux malheureux. Les femmes, surtout, se pressaient en grand nombre autour de nous. Elles nous regardaient, elles pleuraient, elles nous demandaient le récit de nos malheurs. Oh, ils étaient grands, et, comme on peut le croire, nous ne cherchions pas à les diminuer. Au contraire, nous ne manquions jamais d'ajouter à nos récits que nos femmes, nos 5, 6, 7, 8 petits-enfants en bas âge, nous attendaient à la maison et mouraient de faim. Nous recueillions ainsi force menu-monnaie et quelquefois des pièces d'argent. D'ailleurs, certains d'entre nous étaient plus chanceux que les autres. On sait que le régiment se recrutait parmi les pauvres, qui d'ailleurs ni amis ni protecteurs ne peuvent se soustraire à la vie militaire. Quand on veut des soldats, on ramasse dans les rues et dans les cabarets des villes et dans les maisons des villages, ce qui ne peut pas se faire réclamer. Ainsi, nous étions là, à notre chaîne, des hommes faits, des enfants de 15 ans et des vieillards de 70, parce que quand on est soldat, c'est pour toute sa vie, à moins qu'on ne trouve moyen de se faire exempter ou de s'enfuir. Ceux qui parmi nous recevaient le plus d'aumônes, c'étaient les plus jeunes. Puis il y en avait un joli garçon de 16 ans, né à Zeljan, qui fut délivré au bout de 15 jours, tant on le comblait de toutes parts. Il est vrai qu'il avait la figure d'un ange. Pour moi, je réussis à faire prévenir Moula Sulayam de mon triste sort. Le brave homme accourut, se jeta à mon cou, et au nom de notre cher Leïla, il me donna un toman. C'était beaucoup, je le remerciais fort. Peut-être en aurais-je obtenu davantage, mais le lendemain, on nous fit partir de Meshed pour nous diriger sur Téhéran. Mes camarades et moi nous fîmes une chanson qui racontait nos malheurs, et nous en régalions les paysans le long de la route. Cela nous valait toujours quelque peu. D'ailleurs, la charité des musulmans nourrissait les pauvres pactifs mieux qu'elle ne l'avait fait jadis pour les soldats du roi, et nos gardiens en profitaient comme nous. Seulement, il fallait que chacun de nous prît bien garde à ces petites recettes, car soit nous-mêmes, soit nos soldats, nous ne pensions naturellement qu'à nous emparer de ce qui n'était pas à nous. Pour moi, je cernais mon argent serré dans un morceau de coton bleu. Je ne le montrais à personne et l'avais attaché sous mes habits par une corde. Quand nous arrivâmes dans la capitale, je peux bien avouer maintenant que je possédais, avec le toman en or que m'avait donné mon cousin, quelques sabats grands en argent et force chaillis de cuivre, environ 3 tomans et demi. Certains de mes camarades étaient, j'en suis sûr, plus riches que moi, mais d'autres aussi étaient plus pauvres. Car un vieux canonnier appelé Ibrahim, qui était mon voisin de chambre, n'obtenait jamais rien, tant il était laid. En arrivant à Téhéran, on nous conduisit justement à mon ancien corps de garde, et on nous mit en exposition sur la plateforme. Les gens du quartier, me reconnaissant, accoururent. Je fis le récit de nos malheurs, et on était en train de nous donner beaucoup, lorsqu'arriva un véritable miracle. Dieu soit loué, que les saints imams soient bénis et que leur nom sacré soit exalté. Amen, amen, gloire à Dieu, le Seigneur des mondes, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Un miracle, dis-je, arriva, et ce fut celui-ci. Comme toujours, il s'était rassemblé autour de nous beaucoup de femmes. Elles se pressaient les unes les autres et s'avançaient de leur mieux pour nous bien considérer, de sorte que moi, qui racontais nos infortunes au public, Je me trouvais à voir en face comme un mur de voiles bleues et blancs alignés devant moi. J'en étais à cette phase que je répétais souvent avec onction et désespoir. Ô musulmans! Ô musulmans! Il n'y a plus d'islam, la religion est perdue. Je suis du Carmset, hélas, hélas, je suis des environs de Djenjan. J'ai une pauvre mère aveugle, les deux sœurs de mon père sont estropiées, ma femme est paralytique et mes 8 enfants expirent de misère. Hélas, musulmans, si votre charité ne sera de me délivrer, tout cela va mourir de faim, et moi je mourrai de désespoir. À ce moment même, j'entendis un cri perçant à côté de moi, et une voix que je reconnus tout aussitôt, et qui me traversa le cœur comme une flèche de feu, s'écria: Et Dieu, par Dieu, pour Dieu, c'est un gars! Oh, je n'hésitais pas une seconde. Leïla! M'écriai-je. Elle avait beau être couverte de son voile épais, sa figure resplendissait vraiment devant mes regards. Je me trouvais transporté par la joie au plus haut de la 7e sphère. Tiens-toi tranquille, me dit-elle, tu seras délivré aujourd'hui même ou demain au plus tard. Là-dessus, se détournant, elle disparut avec 2 autres femmes qui l'accompagnaient. Et le soir, comme je me mourais d'impatience, un officier arriva avec un véhicule. On rompit ma chaîne et l'officier me dit: Va où tu voudras, tu es libre. Comme il prononçait ces paroles, je me trouvais serré dans les bras, oui. Dans les bras de qui? De mon cousin Abdullah. Dieu, que je fus ravi de le voir. Ah, mon ami, mon frère, mon bien-aimé, me dit-il, quel bonheur, quelle réunion. Lorsque j'appris de notre cousin Kébir que tu avais été enlevé par la milice, oh, je ne sais à quel accès de chagrin je ne fus pas sur le point de m'abandonner. Ce bon Kérim, m'écriai-je, oui, nous sommes toujours tendrement aimés, lui et moi. Bien que, quelquefois, j'avoue que je lui ai préféré Souleymane, et à ce propos, sais-tu que Souleymane? Et là-dessus, je lui racontai ce que notre digne cousin était devenu, et comme il était en train de devenir un moullah très savant et un grand personnage à Meshed. Ce récit charma Abdullah. Je regrette, me dit-il, que notre autre parent Kérim n'ait pas pu obtenir un sort aussi beau. C'est un peu sa faute. Tu sais qu'il avait l'habitude déplorable d'aimer le thé froid avec excès. Cette expression, le thé froid, indique, comme chacun sait, entre gens qui se respectent, cette horrible liqueur qu'on appelle du raki. Je secouai la tête d'un air désolé et indigné tout à la fois. Kérim, répondis-je, buvait du thé froid, je ne le sais que trop. J'ai fait longtemps des efforts extraordinaires pour l'arracher à cette honteuse habitude. Oh, je n'y ai jamais réussi. Pourtant, continua Abdullah, sa situation pourrait être pire. Je l'emploie comme muletier et il conduit pour moi des marchandises sur la route de Tébriz à Trébizonde. Il gagne bien sa vie. Qu'entends-je? M'écriai-je, serais-tu devenu marchand? Oui, mon frère, répliqua Abdullah d'un air modeste. J'ai acquis quelques biens et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de venir à ton aide. Quant à la malheureuse position où tu te trouvais, elle m'a été révélée par ma femme. Par ta femme? Oh, j'étais au comble de la surprise. Sans doute, Kérim, n'ayant pas le moyen de l'entretenir, suivant le mérite de cette créature adorable, a consenti à divorcer avec elle et je l'ai épousée. Je ne fus pas trop content, mais que pouvais-je faire? Me soumettre à ma destinée. On n'y échappe pas. Bien souvent, j'avais eu l'occasion de reconnaître cette vérité. Elle venait me frapper encore une fois, et, je l'avoue, d'une manière qui me fut sensible. Je ne soufflais pas mot. Cependant, je suivais Abdullah. Quand nous fûmes arrivés près de la porte neuve, il m'introduisit dans une fort jolie maison et me conduisit à l'Andrun. Là, je trouvai Leïla assise sur le tapis. Elle me reçut très bien. Pour mon malheur, je la trouvais plus jolie que jamais, plus saisissante, et j'avais des larmes qui me gonflaient le cœur. Elle s'en aperçut, et lorsque, après avoir pris le thé, Abdullah, qui avait des affaires, nous eut laissés seuls, elle me dit « Mon pauvre aga, je vois que tu es un peu malheureux. »« Oh, je le suis beaucoup, » répliquai-je en baissant la tête. « Il faut être raisonnable, » poursuivit-elle, « et je ne te cacherai rien. J'avoue que je t'ai beaucoup aimé et que je t'aime encore, mais aussi je n'ai pas été insensible aux bonnes qualités de Sulaiman, la gaieté et l'entrain de Kérib m'ont ravi, et je suis pleine d'estime et d'attendrissement pour les mérites d'Abdullah. Si l'on me demandait de déclarer quel est celui de mes quatre cousins que je préfère, je demanderai que des quatre ont pu faire un seul homme. Et celui-là, je suis bien sûr que je l'aimerai passionnément et pour toujours, mais est-ce possible? Je te le demande. Ne pleure pas. Sois persuadé que tu vis toujours dans mon cœur. Je ne pouvais pas épouser Sulaiman qui ne possédait rien. Je me suis adressé à toi. Tu as été un peu léger, mais je te pardonne. Je sais que tu m'es tendrement attaché. Kérim me mettait sur la grande route de la misère. Abdullah m'a fait riche. Je dois être sage à mon tour et je lui serai fidèle jusqu'à la mort, tout en pensant à vous trois comme à des hommes. Enfin, je t'en ai dit assez. Abdullah est ton cousin, aime-le, serre-le, et il fera pour toi ce qui sera possible. Tu penses bien que je n'y nuirai pas. Elle me dit encore beaucoup de paroles affectueuses qui, dans le premier moment, me causèrent un redoublement de tristesse. Cependant, puisqu'il n'y avait pas de ressources, et je ne le comprenais que trop, je me résignai à ne plus être pour Leïla que le fils de son oncle. Abdullah, en sa qualité de marchand, avait souvent affaire à de grands personnages. Il leur rendait des services et avait du crédit auprès d'eux. Grâce à lui, on me fit sultan dans le régiment Kasset, ou particulier, qui demeure toujours à Téhéran, dans le palais, monte la garde, porte l'eau, fend le bois et travaille à la maçonnerie. Me voilà donc capitaine et je me mis à manger les soldats, comme on avait mangé moi-même, ce qui me donna une position très honorable dont je ne me plains pas. Nous sommes les gardes du roi. Il a souvent été question de nous donner un uniforme magnifique et même on en parle toujours. Je crois qu'on en parlera jusqu'à la fin du monde. Quelquefois, on se propose de nous habiller comme des hommes qui veillent sur la vie de l'empereur des Russes et qui, à ce qu'il paraît, sont verts avec des galons et des broderies en or. D'autres fois, on veut nous habiller en rouge, toujours avec des galons, des broderies et des crépines d'or. Mais vêtus ainsi, comment les soldats pourraient-ils se rendre utiles? Et qui est-ce qui paierait ces beaux costumes? En attendant qu'on ait trouvé un moyen, nos gens n'ont que des culottes déchirées et souvent pas de chapeau. Quand je me vis officier, je voulus vivre avec mes pareils et je fis beaucoup de connaissances. Mais parmi eux, je m'attachais singulièrement à un sultan, un garçon d'un excellent caractère. Il a vécu longtemps chez les Feringhis, où on l'avait envoyé pour faire son éducation. Il me racontait des choses très curieuses. Un soir, que nous avions bu un peu plus de thé froid qu'à l'ordinaire, il m'exprima des opinions que je trouvais parfaitement raisonnables. « Vois-tu, frère, me dit-il, tous les Iraniens sont des brutes et les Européens sont des sots. Moi, j'ai été élevé chez eux. On m'a mis d'abord au collège et ensuite, comme j'avais appris aussi bien que ces maudits ce qu'il faut pour passer les examens, j'entrai à leur école militaire, qu'ils appellent Saint-Cyr. J'y restai 2 ans, comme ils font eux-mêmes. Puis, devenu officier, je suis revenu ici. On a voulu m'employer, on m'a demandé ce qu'il était à propos de faire. Je l'ai dit, on s'est moqué de moi, on m'a pris en haine. On m'a traité d'infidèle et d'insolent, et j'ai été mis sous le bâton. Dans le premier moment, j'ai voulu mourir parce que les Européens regardent pareil accident comme un déshonneur. Oh, les niais! M'écriai-je en vidant mon verre. Oui, ce sont des niais, ils ne comprennent pas que tout chez nous, les habitudes, les mœurs, les intérêts, le climat, l'air, le sol, notre passé, notre présent rendent radicalement impossible ce qui chez eux est le plus simple. Quand je vis que ma mort ne servirait à rien du tout, je refis mon éducation. Je cessais d'avoir des opinions, de vouloir réformer, de blâmer, de contredire. Et je devins comme vous tous. Je baisai la main des colonnes du pouvoir et je dis oui, certainement, aux plus grandes absurdités. Alors on cessa peu à peu de me persécuter. Mais comment continuer à se défier de moi? Je ne serai jamais que capitaine. Nous connaissons tous les deux des généraux qui ont 15 ans et des maréchaux qui ont 18. Nous connaissons aussi de braves guerriers qui ne savent pas comment on charge un fusil. Moi, j'ai 50 ans sonnés et je mourrai dans la misère et sous le poids d'une suspicion incurable, parce que je sais comment on mène des troupes et ce qu'il faudrait faire pour venir à bout en 3 mois des Turcomans de la frontière. Maudits soient ces scélérats d'Européens qui sont en cause de mes malheurs. Allez, passe-moi le raki. Cette nuit-là, nous bûmes si bien que ce fut seulement le soir du lendemain que je pus me lever du tapis sur lequel j'étais tombé et j'y laissai mon camarade. Grâce à la protection d'Abdullah, je crois bien que je passerai major cette année, à moins qu'on me fasse colonel. Inch'Allah! Inch'Allah!